Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 62. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement. En revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. En tant que professeur de yoga, la solitude fait partie de nos journées. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de professions de service ou d'accompagnement comme les professeurs de pilates, de danse, les coachs. Et puis, associé au statut d'entrepreneur, on peut dire que cela fait en quelque sorte partie de notre vie. Après, c'est de savoir si cela nous convient ou si cela crée de l'angoisse et de la souffrance. Est-ce que la solitude pèse sur les enseignants de yoga? C'est la question du jour. Dans cet épisode, il sera question de différence entre solitude et isolement, des différents facteurs de la solitude comme de l'isolement, de comment c'est vécu, et pour terminer, 5 façons de rompre avec la solitude. Tout d'abord, il est nécessaire de faire la différence entre la solitude et l'isolement, car ce sont deux concepts qui sont souvent confondus, mais ils ont des significations bien distinctes. Commençons par la solitude. La solitude est un état émotionnel et psychologique où une personne se sent seule, même en présence d'autres personnes. C'est un sentiment subjectif qui exprime un certain manque de connexion ou d'interaction sociale satisfaisante. La solitude peut être voulue ou subie. Et dans certains cas, une personne peut rechercher la solitude pour se ressourcer, réfléchir ou encore se détendre. Cependant, lorsqu'elle est subie, elle peut être associée à des sentiments de tristesse, d'isolement ou de déconnexion sociale. Pour un professeur de yoga, la solitude peut être une occasion de se connecter à sa vie intérieure, de pratiquer la méditation, d'approfondir sa compréhension de soi, ce qu'on pourrait appeler svadhyaya, la connaissance de soi. C'est aussi un moment où on peut intégrer la philosophie du yoga et l'expérimenter au quotidien. Donc c'est une bonne manière d'être en connexion avec ce choix de vie qui est suivre la voie du yoga. D'autre part, on a l'isolement, qui est un état objectif où une personne est physiquement séparée ou détachée des autres. Cela peut être dû à des circonstances externes, comme par exemple une séparation géographique, des restrictions sociales ou encore des choix personnels. On peut volontairement s'isoler pour une période courte ou une période longue. Et contrairement à la solitude, l'isolement est généralement indépendant des désirs ou des sentiments de la personne concernée. Et elle peut être involontaire et du coup entraîner des conséquences négatives, que ce soit sur le bien-être mental ou émotionnel. Pour un professeur de yoga, l'isolement peut être perçu comme une barrière pour rencontrer les autres, pour être avec les autres dans un espace de communauté, ou encore ça peut être aussi une difficulté qui ne permet pas d'avoir un certain soutien social. Et cela se traduit par le manque d'échanges avec les collègues, sur la pratique, sur la pédagogie ou sur la vie, tout simplement. Maintenant qu'on a pris le temps de faire la différence, la distinction entre solitude et isolement, voyons en quoi est due cette solitude ou cet isolement. Ça peut être dû aux horaires, parce que quand on est prof de yoga, on va donner des cours tôt le matin ou tard le soir, et si notre entourage proche a des horaires classiques, par exemple un 9-18, eh bien on va avoir des difficultés à croiser les autres, être dans un tissu social régulier, surtout si on donne des cours le soir pendant par exemple 5 soirs par semaine. Donc le fait d'être entouré aussi de personnes qui ont plutôt des professions, on va dire, régulières, avec des horaires régulières, donc ça va créer ce sentiment d'isolement ou de solitude. Cela peut être dû aussi au type d'échange, parce que oui, lorsque l'on donne un cours, on voit du monde. Mais c'est essentiellement dans une relation prof-élève. Et ce n'est ni l'endroit, ni le lieu, ni le moment de parler de sa vie, de ses doutes ou de ses difficultés. Alors, ça ne veut pas dire qu'un prof de yoga ne doit pas parler de ses difficultés, loin de là. C'est juste qu'un élève ne vient pas pour entendre son prof de yoga se plaindre tout au long de son cours. C'est comme si on allait chez le psy et finalement, on s'assoit sur sa chaise ou s'allonge sur le divan et le psy va nous raconter sa vie. Donc, c'est pas du tout ce que l'on attend quand on va chez un psy, on est plutôt là pour déballer son truc. Donc, quand un élève vient prendre un cours, c'est pour recevoir un cours avec des instructions, parler de philosophie si nécessaire, hein. Mais en tout cas, c'est pas le lieu où l'enseignant va déverser ce qu'il a comme difficulté. Et ensuite, si dans certains lieux il est possible de croiser des collègues, c'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut travailler aussi seul dans son coin, ça dépend de si on travaille dans une ville, dans un studio, dans une association, où on croise des collègues ou pas. Et quand on arrive à croiser des collègues, c'est souvent entre deux cours. Ben, on va être entouré d'élèves ou de personnes avec qui on n'a pas forcément envie de partager une forme d'intimité. Et donc, on va rester sur des échanges qui vont être assez superficiels. Le « salut, comment tu vas comment tu te sens aujourd'hui ?» Et puis, voilà, on passe tout de suite à autre chose. Et c'est drôle d'ailleurs parce que parfois on dirait des petits oiseaux qui cherchent la chaleur des uns et des autres. Donc, on peut se tourner autour les uns des autres, on profite d'une pause avec un verre d'eau ou un café, et puis piouf, d'un coup, il n'y a plus personne parce que tout le monde doit aller donner son cours. Donc c'est un petit peu étrange comme échange, c'est un petit peu l'échange autour de la machine à café finalement. Et dans le type de change que l'on peut avoir, on a aussi la qualité de l'échange, ou plutôt la profondeur de l'échange. Le yoga nous amène à nous poser des questions, et des questions profondes, voire philosophiques. Ce qui fait que parfois, on vit dans notre vie des zones de turbulence, dans la vie d'ailleurs, hein. Et c'est tout ce à quoi on inspire, pouvoir échanger avec une autre âme, parler dans la bienveillance et le non-jugement de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse. Et combien de fois je me suis moi-même posée avec Elodie Lay ou Emily Play de Emily Guidance. Vous les retrouvez dans les premiers épisodes en duo dans le podcast, hein. Donc je vous encourage à aller reprendre le fil des différents épisodes et vous allez retrouver nos échanges. Et quand je me retrouve avec soit Elodie, soit Émilie, ça me permet de parler encore et encore de tous les enseignements que l'on reçoit, d'où qu'ils viennent, et au cours des semaines qui viennent de passer. Et puis on va parler aussi de comment tous ces enseignements nous impactent, ce qu'on apprend sur soi, sur les autres, ce que ça nous donne envie de pratiquer, de travailler, de réfléchir aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast et que j'ai voulu recevoir plus d'invités cette année, pour échanger, pour partager des points de vue. Et le podcast est finalement l'occasion rêvée pour toutes ces discussions que le quotidien ne permet pas de faire. Et je suis d'ailleurs ravie de partager avec vous ces échanges. Dans ces cas-là, je vous imagine en train de courir, en train de marcher, peut-être même de vous asseoir avec une tasse de thé ou de café et de nous écouter. Et cela nous ravit à chaque fois de dire « Ah, il y a d'autres personnes qui écoutent cet échange et on va pouvoir peut-être inspirer, explorer, faire réfléchir. » Et c'est aussi ce qui nous fait être une communauté, de pouvoir échanger, partager ensemble, même si ici c'est autour d'un podcast. Mais revenons à nos moutons. Donc si dans l'entourage d'un prof, il n'y a ni prof de yoga, ni profession du même genre, et ni entrepreneur, eh bien, on va avoir l'impression de restreindre nos échanges. On peut même avoir l'impression de ne pas être compris par notre entourage. Parce que quand on est entrepreneur, ce qui est le cas des professeurs de yoga, on est entrepreneur quel que soit le statut qu'il y a derrière, eh bien, on ne vit pas nos journées de la même manière qu'une personne qui va être salariée. Et du coup, on va pas avoir les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, on va pas réfléchir de la même manière. Et quand on échange après avec les personnes qui sont salariées, on peut avoir une espèce de décalage parce qu'on ne comprend pas forcément la façon de faire des uns et des autres. Donc cela peut augmenter cette sensation de solitude ou d'isolement, et du coup on finit par de moins en moins parler de ces difficultés d'entrepreneur et on finit par s'isoler encore plus. Donc c'est le chat qui s'attrape la queue. Un autre facteur d'isolement, c'est l'éthique de l'enseignant. Parce que on peut ranger les enseignants dans deux catégories. Ici je fais vraiment une caricature hein, de ce que sont les profs de yoga, mais on peut les ranger, si on veut, dans deux endroits différents. On va avoir ceux qui adorent et qui aiment, qui apprécient aller boire des coups, manger avec leurs élèves, et ceux qui ont besoin de garder une distance. Ben, ça va dépendre aussi de lieu où on vit, de la forme dans laquelle on travaille. C'est peut-être pas la même chose si on est dans un studio, si on est dans une association, si on est dans une petite ville ou une grande ville. Tout ça, ça change. Et donc, il y a ces deux façons de faire. Sortir, partager sa vie avec ses étudiants, ses élèves, ou encore garder une distance. Et les deux sont très bien, ce sont vraiment des bonnes façons de faire et elles sont tout aussi respectueuses l'une que l'autre. C'est vraiment une question de tempérament du prof. Et bien sûr, pour ceux qui préfèrent garder de la distance, eh bien, cela va servir finalement la solitude, alors que quand on va prendre le temps de boire un coup, d'aller partager un thé avec ses élèves, eh bien, on va diminuer cette impression de solitude. Donc, c'est à vous de voir. Ça va dépendre de votre éthique, encore une fois. Et les deux sont très bien. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Ça dépend de tellement de facteurs que le mieux, c'est d'être à l'aise avec ça et de réfléchir, tiens, pourquoi je préfère garder de la distance ou pourquoi j'aime bien prendre mon temps avec mes élèves et partager un moment de convivialité avec eux. Et c'est ce qui va vous dire, ok, je suis au bon endroit ou pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comme je vous le disais en tout début de l'épisode, il y a la solitude qui est choisie et celle qui est subie. Alors, la question qui se pose, c'est comment est vécue cette solitude ou cette sensation d'isolement ? Et c'est une question à se poser avant de démarrer ce type de métier, avant d'être professeur de yoga ou de pilates ou un métier équivalent. Parce que si vous avez besoin d'un grand tissu social, si vous ne supportez pas d'être seul, si vous avez du mal à être autonome, à vous motiver pour faire toutes les tâches administratives, la communication, gérer les réseaux, etc., eh bien au bout d'un certain temps, ça peut vous poser problème et entraîner une certaine forme de souffrance. Donc, vraiment de prendre en compte ce facteur-là. Si vous êtes une personne qui a besoin des autres, qui est beaucoup dans l'échange, dans le fait de partager tout le temps, ben c'est vraiment à se poser la question. Est-ce que vous allez vous mettre à plein temps, peut-être à mi-temps, pouvoir avoir ce tissu social qui est continué? Est-ce que vous allez aimer travailler le soir, travailler tôt le matin, être en décalé vis-à-vis de votre entourage? Donc posez-vous la question si vous commencez. Si vous êtes déjà enseignant depuis longtemps et que vous sentez que la solitude vous pèse et que vous avez besoin de ce tissu social, comment vous allez changer les choses? Qu'est-ce que vous pouvez transformer? Comment vous pouvez avoir des temps où vous allez partager avec les autres? Vous allez peut-être vous dire, ben moi je veux pas travailler le dimanche matin ou le dimanche midi par exemple parce que c'est le moment où je peux faire un brunch avec mes copains par exemple. Donc voilà, à voir comment remettre du tissu social dans votre vie quotidienne pour que ce soit plus supportable, plus tolérable. Si au contraire vous aimez la solitude, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qu'elle vous apporte? À quel moment vous avez envie d'être seul et à quel moment vous avez besoin ou envie d'être avec les autres? Et c'est d'écouter aussi ses besoins. Ça va peut-être changer d'une saison à l'autre, d'une période à une autre ou en fonction de ce que vous allez vivre. Personnellement, j'avoue que j'ai besoin d'être seule régulièrement. J'ai besoin d'avoir des moments pour moi, des moments où je m'occupe comme je le souhaite, en gérant mon emploi du temps, avec mes lectures, écouter des podcasts, jouer avec ma pratique, et c'est vraiment vital pour mon équilibre personnel, physique et mental. Et cela me permet aussi de donner les cours avec plus de présence, parce que j'ai eu le temps aussi de m'occuper de moi et d'avoir du temps pour moi. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi d'être indépendante, et ce bien avant d'être professeure de yoga. Et j'avais vraiment besoin d'organiser mon temps à ma guise, de pouvoir aller prendre un café avec une copine quand j'ai besoin de le faire au milieu de la journée, et de consacrer toute mon énergie à un sujet qui me passionne le reste du temps. Donc pouvoir jouer entre solitude et vie sociale équilibrée. Aussi, je vous encourage à réfléchir à réenvisager aussi votre façon d'être au quotidien et finalement respecter vos besoins. Alors que l'on cherche la solitude complète ou partielle, que fait-on quand la solitude choisie devient subie et que cela devient une source de souffrance? Parce que c'est tout le thème de cet épisode, c'est de se dire « Ok, c'est pas facile en ce moment, l'isolement est compliqué pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour rompre cet isolement ?» ou en tout cas pour essayer de changer quelque chose, que ce soit sur un petit temps ou sur un long temps. Et je parle volontairement de souffrance parce qu'avant tout, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux et que la philosophie du yoga et l'art de vivre du yoga ne s'appliquent pas uniquement quand on est seul, mais aussi quand on est avec les autres. Donc se retrouver isolé, si on vit dans une forme de souffrance, c'est d'essayer de changer quelque chose pour que ce soit tolérable, agréable, ou en tout cas que l'on se retrouve à apprécier aussi bien le fait d'être avec les autres que d'être dans la solitude. Aussi, je vous propose 5 façons de sortir de la solitude. La première chose, c'est de reconnaître la souffrance. C'est le plus beau cadeau à se faire. Et cette souffrance, elle peut être toute petite, tolérable, elle peut être aussi très importante, et c'est là où on va chercher aussi à dire « Ok, là, je vais changer quelque chose pour quitter cette souffrance et transformer quelque chose. » La deuxième chose, c'est par exemple d'aller boire un café avec les copains. Que ce soit les copains, les collègues, peu importe. Vous décrochez votre téléphone, vous fixez une date, de préférence la plus rapide possible, et vous allez prendre un verre, vous allez manger un gâteau, dîner avec quelqu'un, mais sortir de cet état de solitude et de pouvoir le reconnaître. En le reconnaissant, en disant « voilà, je me sens un peu isolée en ce moment, je suis contente de te retrouver, de passer un moment avec toi ». Déjà, rien que ça, en le posant, eh bien, ça permet de prendre soin de soi. La troisième chose, c'est d'aller, par exemple, travailler dans un café. Quand j'ai besoin de ma solitude, mais en même temps, j'ai pas envie d'être seule, de me sentir physiquement seule, c'est ce que je fais. Je prends mon ordinateur, je m'installe dans un café ou dans un coworking, et ça me permet d'être seule, mais entourée de monde. Donc, ça peut être aussi un bon équilibre. La quatrième chose, c'est, par exemple, d'organiser des réunions Zoom avec vos collègues. On n'a pas forcément des collègues dans notre région, on n'a peut-être pas forcément les mêmes horaires quand on doit aller donner des cours, donc une réunion en vidéo, c'est une bonne réponse. Ça permet de se retrouver, chacun va pouvoir boire son café, son thé, on peut prévoir une thématique sur laquelle discuter ou rien du tout, juste passer 30 minutes, une heure à échanger, parler de la météo du jour, enfin, votre météo, de comment vous sentez, comment vous vivez le moment, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de quoi vous avez besoin, etc. Donc vraiment d'organiser un temps d'échange en visio avec vos collègues. Et c'est comme ça que vous allez aussi créer votre sangha, votre communauté, une communauté d'échange et de partage pour pouvoir à tout moment dire « Ok, ben voilà, moi j'ai besoin de parler un petit peu avec quelqu'un ou j'ai besoin d'échanger sur un sujet qui est dispo. » Donc c'est vraiment important d'avoir cette possibilité-là quand il n'y a pas la proximité physique, en tout cas, pour pouvoir échanger avec d'autres collègues. Et la cinquième action que vous pouvez faire, c'est vous inscrire par exemple à des newsletters qui vous inspirent et qui surtout vous rappellent que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses. Pour cela, je vous ai mis en description le lien pour vous inscrire à ma newsletter où je partage ce genre de choses autour du métier de professeur de yoga. Donc c'est une manière aussi de garder le lien et de pouvoir me renvoyer un petit message, un petit mot pour partager vos sensations là où vous en êtes à ce moment-là. Donc voilà ces 5 possibilités, il y en aura certainement d'autres, hein. Vous allez vous en faire d'autres, de comment rompre avec la solitude et l'isolement. Et une fois que vous êtes rempli de ces échanges, vous allez pouvoir retourner ou pas dans votre grotte. Vous allez peut-être vous dire « Non, c'était trop bien, on va continuer, on va reprendre un autre café, on va refaire une autre réunion en visio pour pouvoir rester dans cette dynamique-là parce que c'est ça qui est important. » En conclusion de cet épisode, je voudrais juste rappeler que la solitude fait partie intégrante de la vie d'un professeur de yoga parce que c'est finalement dû à notre profession, à la fois de professeur avec des horaires décalés, mais aussi d'entrepreneur. Et il est essentiel de reconnaître la différence entre une solitude choisie et une solitude subie, ainsi que l'impact de l'isolement sur notre bien-être mental et émotionnel. Si la solitude devient une source de souffrance, il est vraiment important de la reconnaître et surtout de chercher des moyens de rompre avec cet isolement et de se rappeler que nous avons tous des besoins différents à des moments différents. Ainsi, trouver l'équilibre entre la solitude et la communauté est essentiel pour notre bien-être. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura réchauffé, vous aura encouragé à décrocher votre téléphone et à appeler un collègue ou une collègue si vous avez besoin de rompre avec votre solitude. Si cet épisode vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que vous avez certainement des collègues qui ont vécu, ressenti cette même sensation de solitude et d'isolement et qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de trouver comment en échapper, en tout cas changer quelque chose pour que ce soit à nouveau confortable. Donc partager, échanger, que ce soit en envoyant par mail ou en passant par les stories d'Instagram. N'hésitez pas à me laisser un mail si vous avez besoin d'échanger, de partager sur cet épisode, si vous avez appris quelque chose ou si vous avez envie de partager tout simplement votre expérience. Je serais ravie de vous lire et de pouvoir vous répondre. Aujourd'hui aussi, je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être là à écouter les épisodes, à aller jusqu'au bout. Donc merci encore et encore, c'est énorme pour moi et je suis très reconnaissante de savoir qu'il y a plein de monde qui écoute ces différents épisodes. Encore merci. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une pratique libre et décomplexée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.